C'est quoi le plan, boss?
Me dis pas que t'es inquiet.
Salut, c'est Soundtrack.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma.
C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance.
We begin with a tribute to our lesser known presidents.
We are the mediocre presidents. You won't find our faces on dollars or on cents. There's Taylor, there's Tyler, there's Fillmore and there's Hayes. There's William Henry Harrison.
I died in 30 days.
We are the adequate, forgettable, occasionally
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Yves. Ah, alors qu'Yves n'arrivait pas à avoir de micro. Revoilà la sous-préfète.
Eh ouais, me revoilà. Bonsoir tout le monde.
Bon, on est déjà le deuxième vendredi du mois. Et que se passe-t-il le deuxième vendredi du mois sur Ornithorin 90.2 FM, DAB+, Canal 7B, en train de connecter et WW. Dis donc, c'est ton texte habituellement. Hein.
Ouais, c'est pour ça que je l'ai refilé.
Ouais, hein. Ça, c'est pas gentil de faire ça aux copains. Non. Alors, nos amis routiers, travailleurs de la nuit et nos chers auditeurs qui nous écoutent, c'est le retour.
De Soundtrack, comme vous l'a annoncé justement ce magnifique générique, mais au point par Maître Jérôme, que vous avez déjà reconnu.
Je ne suis pas un générique, mais bon, ouais. Ah, ça va.
Mis au point par toi et sa magnifique voix de Stentor, que vous avez déjà reconnu, il vous a accueilli, et bonsoir donc, oh mon cher double maître, parce que, mesdemoiselles, il toise à près de 2 mètres, le bonhomme.
Oui, mais il n'est pas une patate mariée, mais il est au moins une patate divorcée, c'est déjà beaucoup.
Ouais, bon, bah, tu fais comme tu veux, hein.
Mais comme je peux.
Comme souvent, nous ne sommes pas seuls dans les studios. De ce côté-ci de l'aquarium, il y a donc Jérôme et moi. Mais... Et de l'autre côté, il y a notre teddy bear à la technique audio qui tient la bougie, tandis que Maëlan essaie de faire la technique vidéo en fermant les yeux pour ne pas voir les horreurs qui se passent, justement.
Oui.
Bonsoir à vous deux de l'autre côté de la vitre du studio, si vous voulez faire un petit coucou à tout le monde.
Salut les gens.
Ouais, bah ils font coucou avec les mains pendant qu'il y a la vidéo, mais ils n'ont pas forcément la vidéo vers eux. Ouais, ouais, si vous voyez, ils vous font des grands coucous avec des grands sourires. Voilà. Et si vous voulez nous rejoindre justement sur Facebook, c'est grâce à Maëlan, justement, au niveau de la technique vidéo. Merci Maëlan.
Mais revenons au sujet de l'émission.
Quel est-il, tu crois ?
Ah, j'en sais rien, c'est toi qui as pondu. Ouais.
C'est ce soir une thématique de Soundtrack en lien à une actualité très récente et qui inonde les chaînes info depuis un bon moment.
Poil de carotte ?
Les présidents des États-Unis.
Ah ouais, on n'était pas loin.
Bon, tiens, à défaut, peut-être que notre bon président à nous, accompagné de sa première dame, vont passer en studio. Non, pas Manu accompagné de Bri-Bri Jean-Mi, mais notre Ludo avec Coco. On leur fait coucou. Ah oui, ça c'est de la blague de merde. Et peut-être même un patoche et sa dernière latte de clope. On a perdu Jérôme.
C'est fort dommage. Et sinon, on va peut-être expliquer pourquoi les Simpsons. Parce que les Simpsons, en générique, les Simpsons ne se sont jamais gênés pour se mêler de la vie des Américains en général.
Bah, c'est un peu le thème aussi chez eux.
Voilà, donc on étrangle Bart. Mais ils ont habité aussi à côté... de la famille Bush, quelques épisodes.
Ah.
Alors, avec tout ce que ça sous-entend d'être dans le viseur de Matt Groening.
Ouais.
Surtout quand eux, à la Maison Blanche, la famille Bush se... Enfin, décrit.
Ils adorent les Simpsons, c'est ça
non,
tu veux dire
Non. Ils préfèrent les Walton. Multimilliardaires qui ont créé...
Les Walmart.
Les
magasins, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas aux États-Unis.
Voilà. Ce à quoi les Simpsons, dans la série, ont... répliquer, nous aussi, on est capable de régler les problèmes de dépression. Alors, pas les mêmes, mais voilà.
Mais donc,
bah, non.
On parle des président des États-Unis. Bon, là, c'est la 47e législature qui s'est ouverte et qui vient de se refermer. Nous ne sommes pas là pour commenter l'actualité. Donc, nos avis sur qui devient nouveau locataire de la Maison-Blanche, on s'en fout. Nous sommes là pour présenter des musiques issues de films ayant pour sujet des présidents américains. Bon, et même en réalité, nous avons restreint le domaine, 47e législature justement, en faisant nos recherches, nous avons constaté qu'il y avait par exemple la personnalité du président Richard Nixon, le 37e président de 69 à 74, qui était assez présente au cinéma, et pas que des films liés à l'affaire du Watergate. Alors mon cher Jérôme, toi qui es le spécialiste ciné-musique, moi je vais aller me coucher, je vais aller boire un coup, je vais aller accompagner les deux zozos de l'autre côté. Je te laisse un peu causer du premier film que nous abordons à propos de Nixon.
De Nixon, tu es sûr?
De Richard. Richard.
Film américain réalisé par Oliver Stone, sorti en 1995. Film biographique sur l'ancien président Richard Nixon, interprété par Anthony Hopkins, alors que Joan Allen incarne sa femme Pat Ryan. Ça couvre tous les aspects de la vie, on va y arriver, du 37e président des États-Unis, de son enfance à Whittier en Californie, à la rencontre avec sa femme Pat Ryan. Nixon revient également sur le scandale du Watergate, quand même, faut pas déconner, et ses conséquences.
En fond sonore, nous avons déjà une musique issue du film. Ça s'appelle The Battle Hymn of the Republic par le Boston Pops Orchestra.
Oh yes.
Tu nous fais un petit synopsis, toi qui adore faire des petits synopsis.
C'est une passion dans la vie.
Oui.
Alors, 1972, des hommes sont arrêtés dans le bâtiment du Watergate où le Parti démocrate a des bureaux.
Ah, c'est embêtant.
C'est con. Le scandale qui en découle remonte jusqu'au président des États-Unis, Richard Nixon. Donc, quelques mois plus tard, en décembre 1973, Alexander Haig, chef de cabinet de la Maison-Blanche, lui apporte des cassettes audio. Les deux hommes discutent du scandale du Watergate et du chaos qui en résulte. En réécoutant certaines bandes, Richard Nixon se remémore de nombreux passages de sa vie et de sa carrière politique. Il revoit sa défaite contre John Fitzgerald Kennedy lors de l'élection présidentielle de 60, ou celle face à Pat Brown au poste de gouverneur de Californie en 1962. Alors qu'il annonce après cela sa retraite, il reviendra au plus haut quelques années plus tard lors de l'élection présidentielle de 1968.
Ouais, c'est quand même, on va dire, un des présidents qui a marqué le XXe siècle. Et comme on parle quand même de la musique, c'est un grand qui accompagne Oliver Stone pour la composition, c'est un certain
John Williams.
On vous en a déjà parlé dans d'autres émissions. Pour ceux qui nous écoutent, on va pas vous refaire tout le synopsis de sa vie parce que on passerait encore une heure dessus. C'est pas qu'on ne veut pas, on va dire, le présenter pleinement, mais c'est quand même sa troisième collaboration avec le cinéaste après Né un 4 juillet en 89
et JFK
en 91. Oui, voilà. Pour info, on n'a pas choisi les films sur Kennedy parce que là, on vous fait 10 émissions sur Kennedy.
Ah, déjà qu'on en avait fait
et
pas mal.
Et on en a fait une l'année dernière, voilà, justement, par rapport aux 60 ans de l'assassinat de Kennedy. Donc là, on est sur Nixon, le film d'Oliver Stone. On laisse un peu la musique. Nixon, c'est sans doute l'œuvre la plus surprenante d'Oliver Stone. En effet, il est réputé homme de gauche, mais le réalisateur dresse dans ce film un portrait tout en nuances et même favorable à Richard Nixon, oui, qui est républicain.
Oui, oui, oui.
Tiens, derrière, Teddy nous a glissé la suite avec The Miami Convention, toujours de John Williams.
Bah oui.
Voilà.
Alors,
et qu'est-ce qu'on peut raconter encore sur ce film ? C'est... Voilà, pour ceux qui... de toute façon, comme on dit, pour ceux qui
comme
aiment Oliver Stone,
oui,
ils vont
fans,
forcément
voilà.
apprécier bah, son approche. C'est quand même un des meilleurs cinéastes qui existent, malgré toutes les controverses qu'il a derrière lui.
Alors, controverse, c'est surtout que... Alors, c'est souvent ça, c'est on tourne le film où on dit souvent que les Américains apprennent les, apprennent les catastrophes à la télé. Il y a certains... Oui. Voilà, lui, il fait le film, puis derrière, on trouve une manière d'essayer de justifier le fait que politiquement, oui, bon, allez, voilà. Oliver Stone, quand on regarde sa filmographie, c'est toujours très intéressant. Pour quelqu'un qui était censé être de gauche, voilà, Nixon... Et ça n'a pas été le seul film où il y en a eu d'autres.
Après, on peut peut-être lui accorder aussi, du fait de, son, de toutes les recherches qu'il obligeait de par rapport, il a peut-être découvert des documents qui alimentent justement des doutes sur les situations. Alors, et que des documents qui n'ont pas été, on va dire, dévoilés au public parce que peut-être trop embêtants. Et que lui, justement, s'en sert, comme il avait fait justement avec JFK, avec la critique de, on va dire, avec la balle flottante
autres,
qui se balade.
Autres,
donc justement, il aime alimenter un petit peu le débat, tout simplement.
Il a toujours, et il se défausse souvent, et il se justifie souvent en ayant un point de vue. Excusez-moi, je suis en train de tuer le technicien.
Pour ceux qui sont sur Facebook,
c'est
ne
très
vous posez pas de questions.
J'adore.
Oui, c'est très, très radiophonique.
C'est...
Alors que Mylène est aux manettes. Qu'est-ce qu'il fait ?
Toujours
je ne sais pas,
que...
Bonjour,
je
sais
Teddy.
Pas ce que fait Teddy dans... de ce côté-là, parce que normalement...
Je me cache les yeux, donc on ne me voit pas.
Ah, c'est ça. Voilà.
Ah, il essaye de faire quelque chose. Mais...
Voilà, voilà.
Non, David, tu peux laisser...
Chut, on fait de la radio. Chut, entre...
Oh. Ah.
Non, non, mais vas-y, non, fais, mais vas-y, c'est, on t'écoute.
Et là,
hein,
il vient nous créer un blanc. Donc, on a perdu le film du film.
Voilà,
Nixon.
Donc, je disais, oui, Oliver Stone a pour habitude souvent de se justifier sur ses choix et sa manière de gérer, on va dire, l'aspect politique de certains films un peu polémiques sur le côté humain. Voilà. On aime, on n'aime pas, mais au moins, c'est vendeur.
Au moins, en même temps, c'est aussi un réalisateur qui permet aux spectateurs ben, de s'imprégner et de se poser des questions, de pas simplement ingurgiter un film et ressortir en se disant « ça correspond à ce que je pensais ». Non, si c'est pour avoir un film qui ne te fait pas, on va dire, changer un peu ton idée sur un personnage quand on fait un film justement historique, à quoi ça sert ?
Ah bon,
si c'est juste
d'accord.
pour aller voir un documentaire, bon, ben non, au revoir, hein. Tu regardes un documentaire.
Et justement, puisqu'on est... dans le film de président,
ouais.
on en a un bien,
oui,
1976, et, bien emblématique.
Et
bien
qui justement nous parle un peu de ce questionnement.
Tout à fait.
Ce qu'on va aborder, 1976, All the President's Men, en français,
Les Hommes du Président.
Un film avec deux très grands acteurs, Robert Redford et Dustin Hoffman, qui jouent le rôle de journaliste. Et qui, donc, film américain réalisé par Alan Pakula en 76.
Oui.
Il s'agit de l'adaptation du livre Les Hommes du Président de Bob Woodward et Carl Bernstein, les deux journalistes qui ont enquêté justement sur le scandale du Watergate pour
c'est
le compte
fichu.
Du Washington Post, ce qui a eu pour conséquence bah, la démission du président américain Richard Kennedy. Richard Kennedy.
Là, là.
Richard Nixon, celle-là, elle était belle.
On
va la garder, celle-là, tu l'as enregistrée, Teddy.
On n'est pas en direct, on pourra couper.
Ouais, on pourra
couper.
Bon. Les Hommes du Président est l'un des nombreux films au cinéma racontant donc les péripéties d'un journalisme d'enquête. Ce qui manque un petit peu ces temps-ci, c'est souvent du journalisme où on recrache les dépêches de l'AFP sans chercher à savoir si c'est vrai ou faux. Et donc, c'est toujours cité comme une référence un demi-siècle plus tard.
Oui, on est tout à fait d'accord. Voilà.
Encore un petit synopsis ?
Bah,
pour pas changer.
Ça change pas. En juin 1972, cinq personnes entrent par effraction dans le quartier général du Parti démocrate. On l'a déjà dit.
Ouais.
Situé dans l'immeuble du Watergate à Washington, un gardien de la sécurité découvre une porte déverrouillée, refermée avec du ruban adhésif.
Ouais.
Voilà. Marcel Béliveau, je ne sais pas. La police prévenue se rend sur les lieux et arrête les cambrioleurs. Le lendemain de leur arrestation, le jeune journaliste Bob Woodward du Washington Post découvre que les cinq prévenus, quatre Cubains et James McCord, ancien agent du FBI et de la CIA, avaient un équipement pour placer des micros. Ils ont tous un lien avec la CIA et ils ont tous le même avocat, refusant ceux qui ont été commis d'office. Woodward relie les cambrioleurs à Howard Hunt, membre du comité pour la réélection du président, et à Charles Colson, conseiller juridique de la Maison Blanche. On est pas mal.
Ouais, là, on est pas mal. C'est pas bon de faire du lien avec le président.
Et là, il est conseiller de qui ? De Richard Nixon, président des États-Unis sortant et candidat à l'élection présidentielle de 1972.
Ouais, il est candidat à sa réélection. Réélection qu'il va avoir puisqu'il est en place jusqu'en 1974. Mais donc, cette enquête journalistique met le doigt sur un truc qui n'est pas beau.
Bah non, ça se fait pas.
On a donc en fond sonore actuellement la thématique un peu globale qui tourne dans le film.
C'est très lourde. C'est très inquisiteur.
Il y a un côté pesant, justement. Ouais. C'est une thématique qui tourne régulièrement sur différents instruments.
Tout à fait.
C'est pas une musique qui est forcément très.
Pas le but.
Et elle va plus accompagner les scènes plutôt qu'habiller ou être un personnage global, même si au final cette lourdeur devient justement un personnage par rapport à l'enquête, par rapport justement au cheminement des journalistes.
Ah tout à fait, oui, tout à fait.
Et justement, c'est bête à dire, elle est de qui cette musique ? J'ai un peu perdu le fil de...
J'avoue.
La musique, c'est David Shire. Oui. S-H-I-R-E, je suis désolé pour la prononciation c'est du mauvais anglais.
You speak English.
Je speak English comme une vache espagnole.
C'est ça, as a macho.
Et on va en parler un petit peu de ce monsieur David Shire, si tu veux. Et après, on reviendra peut-être un peu sur monsieur Pakula. David Shire est donc un compositeur américain. Je suis désolé, quand je regarde sa filmographie, il en a pas mal, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de films qui me percutent quand je lis.
Ouais.
À part justement Les Hommes du Président, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, mais alors, c'est une bande originale qui n'a pas été retenue et qui est sortie en 2017 en CD.
C'est ça.
Donc ça veut dire qu'il est peut-être bon compositeur, mais...
Des gens qui n'ont pas de bol, des fois, dans la vie.
Ouais, c'est ça. Il a aussi fait...
En 86.
Short Circuit de John Badham. C'est une bonne BO également. Ouais. Mais c'est vrai que quand on regarde sa longue discographie, justement, en BO, c'est pas des films très connus, malheureusement.
Du moins en Europe.
Il faudrait qu'on se penche un peu, justement, sur sa musique en elle-même, mais...
Oui. La même rengaine.
Si c'est toujours la même rengaine, on va dire, voilà. À partir d'un moment, on s'ennuie un petit peu. Donc, le réalisateur, Alan Pakula.
Bah oui, Alan Pakula.
Qui est connu majoritairement pour ce film, j'ai envie de dire. C'est un producteur et réalisateur américain.
Lui aussi.
Il a deux thrillers politiques qu'il impose. À cause d'un assassinat sur l'assassinat de Kennedy et Les Hommes du Président sur le scandale du Watergate. Donc, Pakula, il gagne la réputation d'un cinéaste engagé.
Bah là, pour le coup, oui.
Mais c'est un peu pareil, à part Clout, que je connais en 71, sa filmographie n'est pas celle que je connais le plus également.
Bah, il a
oui. Voilà.
C'est un cinéaste qui a fait aussi avec les moyens. On n'a pas tapé avec Hans Zimmer. Je ne suis pas certain des gens qui en plus à cette époque-là, ça existait vraiment ou c'était très très développé. Je ne suis pas sûr. Mais néanmoins, succès puisque film magnifique, quoi qu'il arrive. Et autour du film, justement, j'ai quelques petites anecdotes.
Oui.
Les propriétaires du poste, Catherine Graham, d'abord réticente vis-à-vis de la réalisation de ce film, a ensuite changé d'avis. Et a renvoyé une lettre de louange à Robert Redford, acteur et coproducteur.
Oui, quand même.
Voilà. C'est le premier film que Jimmy Carter a regardé pendant son mandat présidentiel également.
Président démocrate les années 70.
Bah oui, on se distrait comme on peut.
Oui.
Et sinon, le numéro de téléphone de la Maison Blanche que Redford signale au téléphone est bien celui de la Maison Blanche, hein, 456-14. 14.
Donc si vous ne savez pas quoi faire ce soir...
C'est ça.
Pour l'instant, c'est encore Joe, hein, donc vous pouvez essayer de le joindre, on ne sait jamais.
Il est au lit, là, à mon avis. Hein, il...
Oh là, ah, oui, bah, papy, il est déjà couché.
Monsieur Joe Biden.
Ouais, ouais.
Oui, voilà.
Et autre info, justement, Virginie Piper, femme d'un important homme d'affaires du Minnesota, avait été kidnappée à son domicile de Minneapolis. Elle fut pour la première fois, qu'il était bien deep throat, gorge profonde, l'indicateur de Bob Woodward au moment où le scandale du Watergate a éclaté. Il était directeur adjoint du FBI.
Voilà.
Voilà.
Et ce film pour une note un peu plus rigolote, est de large base à l'action de la classe américaine, pour ceux qui connaissent. Alors ça, je vous le conseille d'aller le chercher. Il est encore visible sur YouTube. C'est magnifique. C'est où ? C'est un autre film, c'est un autre titre, c'est Le Grand Détournement. C'est l'enquête sur les derniers mots de l'homme le plus classe du monde, George Abitbol, mené par Redford et Hoffman via des extraits de ce film.
Ah, oui,
c'est
oui,
cultissime.
Oui. C'est vrai que.
C'est un bonheur.
Allez chercher ça sur Internet et.
Ça se trouve sur YouTube.
Vous allez vous bidonner tellement c'est super bien remonté, très bien rescénarisé avec des dialogues, mais comme on dit aux petits oignons, c'est savoureux.
Oui, c'est surtout unique en son genre.
Allez, on a laissé tourner tranquillement cette bande originale de David Shire qui est planante. On est arrivé maintenant sur un autre film, toujours avec Nixon. Frost. Nixon.
Ah, Frost, bah oui.
L'heure de vérité, qui date de 2008. Un film qui est également américain, mais en coproduction française et britannique, et d'un certain Ron Howard.
Oui.
Adapté de la pièce éponyme de Peter Morgan qui est sortie en 2008.
Un petit nouveau aussi.
En fond sonore, allez, on va laisser tourner un petit peu. Hello, good evening and welcome. On a changé un petit peu de musique, on est toujours sur Frost, Nixon.
Tout à fait, et la musique est très berçante et on a envie de la laisser en plus, c'est ça qui est assez terrifiant. Mais pendant que Teddy s'ennuyait et s'endormait, on était en train de parler de Ron Howard, un petit nouveau qui avait commencé pas mal dans Happy Days, je crois.
Ouais, 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 c'est Richie Cunningham, si je me rappelle bien.
C'est ça, c'est ça, mais pendant que Yves cherche désespérément dans son texte, je vais vous faire le petit synopsis.
Ah ouais.
Ouais.
Ça change.
Bah oui, ça change, mais en 1967, le journaliste britannique David Frost, pour relancer sa carrière, veut interviewer le président déchu Richard Nixon. Celui-ci préférerait un journaliste plus connu, mais accepte après avoir négocié une importante somme d'argent. On est aux États-Unis, faut pas déconner. Pour Frost, il faut maintenant trouver le financement de son émission et réussir à mettre la pression sur Nixon à propos du Watergate.
Ah, il est quand même très lié. Hein.
Bah oui, oui, oui. Pour Nixon, convaincu par son entourage que Frost ne sera pas à la hauteur, c'est l'occasion de reconquérir le public et de réaliser un retour sur le devant de la scène. Les deux hommes sont maintenant face à face. Ce sera la gloire pour le vainqueur et la fin de toutes les illusions pour le vaincu.
Ouais. Et tiens, musicalement,
c'est Hans Zimmer.
Oh, mais on n'en a jamais parlé de celui-là.
Un petit nouveau.
Ouais, un petit nouveau.
Un petit nouveau.
Avec donc une production de Ron Howard. Avec,
c'est ça.
Au niveau de la distribution, on a Frank Langella qui fait Richard Nixon.
Ouais.
Michael Sheen qui fait David Frost. On a également Sam Rockwell qui est auteur de 4 ouvrages anti-Nixon
James
Reston Jr.
C'est ça.
Et on a Kevin Bacon qui apparaît également comme Jack Brennan, le chef de cabinet de Nixon. Et Matthew
McFadden.
Fadian, j'arrive pas à dire son
Fadayen.
Nom. Fadayen, comme John Burt, le producteur et ami de Frost. Donc,
ça va.
On a quand même un beau casting à ce niveau-là.
C'est pas les mêmes moyens.
Oui, également.
Clairement.
Et donc, Ron Howard, on en a un tout petit peu parlé comme acteur. On disait que c'était donc Richie Cunningham dans
Happy Days,
les jours heureux dans les années 70.
C'est ça.
Et après, bah, il est devenu
un réalisateur en signant plusieurs longs métrages, dont Splash en 84, Cocoon en 85, Willow en 88 et Backdraft en 91.
Et
durant les années suivantes, par contre, il poursuit sa collaboration avec Tom Hanks en signant la trilogie des aventures de Robert Langdon, donc le Da Vinci Code en 2006, Ange et Démon en 2009 et Inferno en 2016.
Ouais, Ron Howard est quand même un des réalisateurs venant de, du rôle d'acteur comme réalisateur. Il maîtrise super bien. Il a fait une là, par contre, c'est une quantité de films que si
non.
On va pas s'engager à les dire parce qu'autrement on est encore là demain. Mais également Apollo 13, Le Grinch et Rush que t'adores.
Ah bah Rush,
et,
oui,
justement,
oui.
Et dans plein de styles différents, prouvant justement sa qualité de réalisateur. De réalisateur capable de s'adapter à tous les styles.
Bah, puis capable d'accueillir aussi Hans Zimmer en musique aussi, parce que mine de rien, enfin voilà, faut le film là, avec les épaules.
On va peut-être pas trop en parler de Hans Zimmer, mais.
Non, on l'a déjà fait, je crois.
Ouais.
Oui.
Et. On se met un petit bonus musical, justement, une petite pause musicale avec.
Bah justement, oui, tiens.
Le titre suivant qui, justement. Porte bien son titre par rapport à l'enjeu entre les deux, entre Nixon et Frost. Le titre, Insanely Risky.
Oh, c'est bien dit.
Ouais.
Le terroriste. Alors, Madame Dolto, Papayou, Papayou. Thank you.
Voilà, donc Insanely Risky qui accompagnait le film Frost and Nixon sur justement l'interview de Nixon par Frost. J'ai pas vu le film, j'avoue. Je ne sais pas comment avait terminé l'interview en vrai également. C'est ça aussi le plaisir, c'est d'aller découvrir le film. Moi, je le ferai avec plaisir.
Comme Patoche, à chaque coup, on va voir tous les films dont on parle.
Ouais.
Et mais changeons de sujet.
Et en réalité, changer de sujet. Non, on reste toujours quand même dans cette alliance entre journalisme et politique.
2008, donc.
Ouais. On était déjà en 2008. Pentagon Papers qui arrive avec une petite musique qui s'appelle The Court's Decision and Credits. Oui, on commence ce film-là avec la musique de fin.
C'est ça.
C'est marrant. Donc, on est sur la musique du film Pentagon Papers avec donc The Court's Decisions and End Credits, musique de John Williams, et le film date de 2017, réalisé par Steven Spielberg.
Yeah.
Film inspiré de faits authentiques, la publication des Pentagon Papers par le New York Times, puis le Washington Post au début des années 70, et cette expression désigne le document. Relation entre les États-Unis et le Vietnam. 45-67.
Voilà, c'est une étude préparée par le département de la Défense. Ouais. Soit plus de 7000 pages top secret dévoilant l'implication politique et militaire des États-Unis dans la guerre du Vietnam qui dura de 55 à 75.
20 années de bonheur.
Oui, c'est ça. Ouais. Considéré donc comme un grand film sur la liberté de la presse et un symbole aussi du journalisme d'investigation.
Qui manque, comme je disais, dans ces années 2020.
Tu serais pas un peu à charge, Yves ?
Moi ? Non.
Bon, allez, pour changer, on va faire un synopsis. Allez, on est parti. En 1965, l'analyste Daniel Ellsberg se rend sur le front de la guerre du Vietnam pour y observer l'avancement des troupes américaines. Pour le compte du secrétaire à la Défense, Robert McNamara. À McNamara, qui lui demande son ressenti de terrain dans l'avion du retour, Ellsberg répond que l'envoi de renforts de 100 000 hommes n'a en rien amélioré une situation délicate et McNamara l'approuve. Mais, lorsqu'il est accueilli par les journalistes, McNamara développe un discours lénifiant sur les progrès militaires. Tout va bien.
Ouais.
En 1971, Ellsberg, qui travaille désormais pour le RAND Corporation, une institution de conseil militaire, décide de photocopier secrètement un rapport sur l'évolution du conflit au Vietnam. C'est une grosse photocopieuse. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Bon, voilà. Depuis la présidence de Harry S. Truman. Ça fait du taf.
En 1945,
jusqu'en 1967, révélant le double discours des différentes administrations américaines sur les chances de victoire des États-Unis. Les gouvernements successifs, peu à peu convaincus que la guerre ne pouvant être gagnée, ont caché au peuple américain, la réalité de l'enlisement du conflit.
Et ouais, entre ce que les journalistes présentent à la télé et ce qu'il y a réellement sur le terrain, bah, il y a malheureusement un monde.
Bah
et
oui.
Ça, on le constate malheureusement, surtout dans les années encore 2020, où on croit que... Mais bon, Daniel Ellsberg divulgue clandestinement ses informations au New York Times. Le journal sort un premier article, mais doit interrompre la publication sur décision de justice.
Oui.
Ouais, il y a toujours des pouvoirs derrière. Celle-ci a été saisie par l'administration Nixon, ces informations étant classées secret défense.
Oui,
secret défense,
change.
Normalement, t'as pas le droit de divulguer. Et d'abord, sur la touche, le Washington Post récupère le scoop et des milliers de pages des Pentagon Papers grâce à la motivation de son rédacteur en chef, Benjamin Bradley, et au contact d'un journaliste, Ben Bagdikian. Avec Ellsberg, Bradley pousse la propriétaire du journal Catherine Graham à publier les documents. Et cette dernière est face à un cas de conscience, voyant bien l'importance de la publication, mais aussi les risques judiciaires et financiers qu'elle ferait courir au journal et à ses dirigeants. Elle doit donc faire face à un conseil d'administration très hostile au projet et tenir compte de l'entrée en bourse de son journal. Et ouais, on est quand même aux États-Unis également. Et entrée donc en bourse en cours qui pourrait capoter, sans compter les liens d'amitié qui la lient à McNamara. Oh,
oui.
Bizarre.
Étonnement.
Et seule femme d'homme, elle tient pourtant tête à tous ceux que la publication dérange ou effraie et donne son feu vert. L'ensemble de la presse reprend alors les informations du Poste. La Cour suprême est saisie. Elle doit arbitrer entre liberté de la presse, instaurée par le premier amendement de la Constitution des États-Unis, défendue par les équipes du Washington Post et du New York Times, et la protection du secret d'État exigée par le gouvernement fédéral. La Cour suprême, dans l'arrêt New York Times Company versus United States, statue en faveur de la liberté de la presse qui doit être au service des gouvernés et non des gouvernants. Nixon est furieux et jure qu'aucun journaliste du Poste ne mettra plus les pieds à la Maison-Blanche.
Ça me rappelle quelque chose aussi, ça. C'est,
ah oui. Et
c'est marrant.
Et ça, quand je lis ça, j'ai l'impression de voir l'état de la presse française actuellement,
c'est
qui est bien aux ordres du gouvernement.
Voilà, ça change.
Ah ouais.
Et sinon, la scène finale montre l'immeuble du Watergate. J'aime bien ça, chaque coup, c'est moi qui le dis. C'est devenu une espèce de prérogative,
tu sais,
avec les synopsis.
En réalité, c'est Forrest Gump, si tu te rappelles bien.
Tu sais qui a déclenché le Watergate.
Ah
oui, on me l'a fait remarquer aussi.
Il y a de la lumière dans la chambre en face de chez moi.
C'est toujours très rigolo dans ces cas-là. Mais bon, donc l'immeuble du Watergate, de nuit l'année suivante, et les cambrioleurs du Comité national démocrate au travail. Le scandale du Watergate commence, il aboutira à la procédure de destitution du président Nixon et à sa démission, donc en 1974.
Ouais, on est quand même sur une thématique très gay. Hein.
Tu très gay et pas redondante du tout.
Tu peux me remercier, je sais que...
Mais vous pouvez tous le remercier.
Ouais, ouais, vous pouvez tous me remercier sur Facebook. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez, des bombes, des couteaux tout, et des grimaces. Je comprends, mais bon, c'est un peu la thématique justement de ce mois de novembre 2024 pour ceux qui écoutent en direct. Pour ceux qui écoutent en rediffusion, j'ai cité la date justement pour que vous compreniez justement pourquoi on a abordé ce thème présidentiel. Et pour ceux qui ne savent pas, justement, je disais, on aura peut-être Patoche qui passe avec sa dernière latte. Non, bah, il va aller justement prendre sa première latte. Il est en train de passer en studio. C'est pas du tout visuel, mais il nous fait coucou également à ceux qui sont à l'écoute et sur Facebook. Au niveau de la distribution du film, on revient quand même un peu à ce Pentagon Papers. On a quand même deux excellents acteurs, Meryl Streep
et Tom Hanks. Tom Hanks. Joli clin d'œil, non ?
Ouais, ouais, ouais. Et la musique de The Post, le titre initial en anglais,
bah, c'est John Williams. Rebelote.
On en a parlé tout à l'heure, donc c'est pareil, on ne va pas en faire des kilos.
Cela dit, collaborateur très fidèle de Steven Spielberg, on le sait, le compositeur a préféré se concentrer sur la musique de ce film et a ainsi laissé sa place sur le film suivant du réalisateur, produit peu de temps après, qui est Ready Player One.
Et dans un style complètement différent.
Mais qu'on vous conseille de toute façon, où il est remplacé par Alan Silvestri, qui n'est pas un petit nouveau non plus dans le métier.
Non, non, vous en avez également un petit peu parlé.
Tout à fait.
Et bon... Je vous parlais qu'il y avait Patoche qui passait dans le studio et on va lui rendre un petit hommage au passage parce qu'on va changer de film, on va rester avec Nixon, mais...
2016,
il y a un film qui s'appelle Elvis and Nixon et Patoche est fan d'Elvis. Elvis Presley, oui, The King.
Yes.
Eh oui, le film un peu improbable, Elvis and Nixon en 2016, film, je ne connais pas la réalisatrice, elle s'appelle Lisa Johnson.
Elle habite pas à Bonnetable ?
Non, malheureusement.
Ah, c'est dommage.
Mais au niveau des acteurs principaux, nous avons Michael Shannon qui s'éclate en tant qu'Elvis et Kevin Spacey qui fait un Nixon très très crédible. Allez, tu
je
nous
sais
fais
pas un... comment le prendre ça. Tu nous fais très crédible, je suis pas sûr.
Bah, on a quand même eu Hopkins qui l'a.
On a quand même, on va dire,
des grands acteurs. Je parle au niveau acteur, je parle pas au niveau privé et compagnie de chacun. Ça c'est pareil comme qui a été élu, on s'en fout.
Mais qu'est-ce que ça vient faire là, mon
cher? Moi, je parle justement des acteurs et on a de très bons acteurs. Et bon, on va replacer un peu le film pour comprendre justement.
Et
Elvis
justement,
Nixon.
C'est l'heure du synopsis.
Oh,
ça change. Allez, on y va. Le 21 décembre 1970, Elvis Presley se rend à la Maison Blanche. Bah oui, il s'occupe comme il peut. Où il demande à parler à Richard Nixon. C'est toujours mieux là qu'ailleurs. Ouais. Le président des États-Unis. C'est fou, non ? On n'en parle jamais. Le célèbre artiste a écrit une lettre au président Nixon. On sait donc qu'il sait écrire. Merci, Patoche. Dans lequel il dénonce les problèmes de drogue dans la société. Aucun commentaire. Le King veut lui exprimer son souhait d'être engagé comme agent infiltré du bureau des narcotiques et des drogues dangereuses pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Nixon, le républicain, qui n'est qu'au début de son mandat, cherche des excuses donc, est alors assez impopulaire auprès des jeunes. De toute façon, hein, il pense que sa rencontre avec Elvis améliorera son image.
C'est quand même Elvis Presley, le king, le ouais. king of rock and roll. Mmh. Donc c'est vrai que
voilà,
hein, il peut se mettre la jeunesse de son côté et en même temps lutter contre quand même un fléau qui sévit depuis trop d'années et qui malheureusement
les mauvais films, peut-être.
Il y a ça aussi.
Ah oui, ouais. C'était ça.
Au niveau musical, le compositeur, c'est... Je vais essayer de bien le prononcer ouais, bah, ou je te ouais. le laisse.
Non, je t'en prie.
J'y vais.
Ah, oui, c'est...
Le prénom, c'est Ed.
Ça, voilà, juste ici, tout va bien.
Nom.
Schermer.
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 Ouais, c'est ça.
Ouais, Schermer.
Il a peut-être mis une armure, ouais, je sais
non,
pas.
On ne sait pas. Ouf, oulala, ouais. oulala. On va retourner un bonnet tableau aussi avec
c'est
ça.
C'est ça, moi.
Oulala, compositeur de films britannique, donc aussi organiste et arrangeur.
On avait eu en fond sonore au tout début une petite musique toute courte qui s'appelle Little History. Et malheureusement, je suis un peu comme tout à l'heure. Quand je regarde sa filmographie au niveau de la composition, ben, y a pas grand-chose qui me cause.
Non, on
est d'accord. Alors, quand ça commence à me causer, je vois La Mutante 2. C'est pas le meilleur des films de science-fiction.
Oui, non. Sex and Ocean, Jacob le Menteur de Peter Kassovitz,
ouais.
voilà.
Ouais. Flic de haut vol qui est un peu sympa, mais il n'y a pas. Il y a Miss Détective pour ceux qui aiment Sandra Bullock.
Pour ceux qui aiment bien les navets, il y a Charlie et ses drôles de dames. Hein.
Ah oui, celui-là,
voilà.
il est beau.
Et pour ceux qui auraient encore un neurone qui fonctionne encore, pour bien le finir, il a même fait le 2, je crois.
Ouais.
Voilà.
Si, il y a Johnny English. Allez, on se marre quand même. C'est Mr. Bean, Rowan Atkinson. Ouais, donc, il y a au moins ce côté-là. Mmh. Mais c'est vrai que quand, malheureusement, je vous dis, je regarde sa filmographie, c'est pas le meilleur des winners.
Non.
Mais musicalement, il se débrouille quand même pas mal parce que, voilà. Mais donc, Lisa Johnson, comme je vous disais au niveau de la réalisatrice, c'est pareil. Oui. Je ne la connaissais pas avant. C'est une réalisatrice qui est assez, on va dire, jeune pour pas être méchant au niveau de l'âge, puisque j'ai la même catégorie d'âge. Et pareil, quand je regarde sa filmographie, depuis 2000, elle n'en a pas fait beaucoup. Et le seul que je connais, justement, c'est Elvis and Nixon.
Ouais.
Donc,
ça sauvera pas le truc non plus.
Et
hein.
Elvis and Nixon n'est pas, on va dire, non plus le film le plus mémorable. C'est un film qui est sympa, ou comme je dis justement. Del Shannon qui fait le rôle de Elvis Presley, il s'éclate. Au moins, on peut dire qu'il y en a un dans le film qui a pris plaisir à faire le film.
Oui.
Au moins, c'est un plaisir qui se transmet au spectateur à ce moment-là. Mais après, quelle est la véracité de tout ce qui est développé dedans ? Ouais. C'est ça aussi la magie du cinéma, c'est de laisser développer, on va dire, tout.
On vous laisse d'ailleurs écrire à Yves pour.
Ouais.
Lui expliquer si Elvis a vraiment appelé Nixon, si Nixon était malade.
Ils se sont rencontrés, puisqu'il y a les photos officielles de la rencontre. Mais comme on dit, c'est comme un peu comme les secrets d'alcôve. Qu'est-ce qui s'est dit derrière le bureau de la
du bureau
ovale ouais. C'est une très bonne question.
Merci de l'avoir posée.
Teddy, sinon... on s'envoie une petite musique bonus, un truc encore très très enjoué.
Ah oui.
The Iraq War Symphony. We'll be right back. Voilà, c'est pas une des musiques les plus plaisantes, mais elle est quand même assez rythmée. Donc, The Iraq War Symphony, tirée du film Vice,
bah,
en 2018. Là, on parle pas de président, en réalité, on parle d'un vice-président, Dick Cheney.
Ouais, une éminence grise, moi je dirais plus, oui.
Qui est en rapport avec Nixon, parce qu'il a commencé sa carrière sous l'administration Nixon, donc ça permet de faire un lien justement avec les présidents. Et c'est un film biographique américain, donc de 2018.
Ouais, réalisé par Adam McKay, sorti donc 2018, qui raconte l'ascension politique et la vie privée de Richard Bruce Cheney, dit Dick Cheney, homme politique américain, membre du Parti républicain, encore un, et vice-président des États-Unis entre 2001 et 2009 dans l'administration du président George W. Bush.
Et donc, on ne va pas s'étendre sur sa vie. On vous laisse aller voir le film. La distribution est quand même sympa, parce que c'est Christian Bale qui joue le rôle de Dick Cheney. C'est quand même
notable, tout
notable
à fait.
Avec Amy Adams également, et Steve Carell et Sam Rockwell comme co-acteurs. On a une musique qui est... donc un peu plus dynamique, et j'ai perdu, on va dire, c'est Nicolas Britell. Oui. Malheureusement, je ne le connais pas non plus.
Encore quelqu'un dont on ne parlera jamais.
Peut-être, c'est malheureux. Donc, compositeur américain de musique de film, et qui s'inspire de musiciens qui sont tous morts. Rachmaninoff, voilà. Gershwin, Philip Glass, Quincy Jones, Dr. Dre. Ah non, Dr. Dre n'est pas encore mort.
Oui, ben on va le tuer ce soir-là.
Mais voilà. Bon, c'est un film qui est assez pesant, qui donne pas envie, on va dire, mais qui permet de comprendre aussi les coulisses de la politique américaine et tous ces méfaits, on va dire.
Bah, qui décrit bien Dick Cheney, quelque part,
voilà.
Et qui ne regrette rien, ce qui est assez terrifiant de toute façon.
Voilà.
C'est un manipulateur, voilà. Et c'est assez... Il a vraiment élevé ça, c'est un art, c'est devenu
une espèce
d'art.
Comme tu m'avais dit en préparant, il est droit dans ses bottes. Mais au moins, il est fidèle à lui-même, alors au moins à ses convictions, quelles qu'elles soient. Ça peut faire peur,
ça fait
mais
peur.
Voilà.
Ça fait peur.
Donc on passe rapidement et Teddy, tu nous mets un tout petit Paul Cantelon, s'il te plaît. Juste pour, on va dire, un peu accompagner. On va juste introduire, oui. un petit cancan de cow-boy, si tu es là. Voilà, une petite musique qui justement remonte un peu le niveau qui était un peu lourd pendant toute cette émission. Donc, Cancan Cowboy de Paul Cantelon qui illustre une scène du film W, l'improbable président,
c'est
en 2008,
résumé, ouais.
Et qui parle de George W. Bush, le fils de son père, qui est également devenu donc président des États-Unis.
C'est un Oliver Stone.
Un Oliver Stone. Donc, on retrouve, on va dire, le côté justement engagé de Stone sur les films politiques américains, sortis en 2008, qui raconte la vie du 43e président, donc George W. Bush, de son passé trouble à sa présidence de 8 ans à la Maison-Blanche, avec notamment l'opération Liberté irakienne ou encore les rapports avec son père George, le 41e président. Donc, c'est un film pareil historique sur un président justement improbable et une musique qui est justement plaisante et décalée, qui prouve bien ce côté décalé du président. Et là, en fond sonore, c'est Delta Waltz en piano version, toujours de Paul Cantelon, le compositeur que malheureusement, pareil, je ne connais pas plus. Et Justement, si on a parlé de Dick Cheney, c'est tout pour arriver justement, parce que Dick Cheney a été vice-président
c'est
de
vrai.
W.
Ouais. Ah bah, ils se méritaient les deux. Hein.
Ouais, donc c'est pour ça que c'est un peu décalé à ce niveau-là, ça fait du bien. Tu nous parles un petit peu de Monsieur Cantelon ?
Merci de prévenir.
Merci de prévenir, parce que je suis en train de voir que l'heure est en train d'arriver un petit peu proche de la fin.
Bah, tu sais quoi, on va parler de Monsieur Cantelon la prochaine fois, parce que si on est proche de la fin, justement, il y a une fin tout en panache, mon cher
Yves. Et on va faire le lien avec l'émission de décembre, qui sera vendredi 13 décembre.
Un peu plus joyeuse, certainement.
Ouais.
Merci.
Si vous pensez que c'est Noël, que c'est décembre, qu'on va faire la fête, non, ça sera vendredi 13. Donc, on va faire un lien avec des films un petit peu étranges et qui font peur, qui foutent les chocottes. Et nous pourrons revenir à l'occasion sur d'autres présidents, dont par exemple Lincoln, justement, dont on va passer une petite musique pour finir l'émission, parce qu'il y a eu Lincoln, chasseur de vampires. Oh, truc improbable.
Parce que pourquoi pas.
Bah oui. Et on vous dit merci pour nous avoir suivis, que ça soit sur le 90.2 FM ou sur Facebook. On vous fait coucou. Merci Mylène.
Salut les auditeurs. Merci Teddy. Salut les viewers. Merci Mylène. Merci Teddy.
On vous dit donc rendez-vous vendredi 13 décembre. Cette émission est rediffusée ce dimanche 15h-16h, puis mercredi à 3h du matin. Coucou à tous les insomniaques.
Oui.
Teddy, si t'as un mot à nous dire, c'est le moment. Sinon, on va se quitter tranquillement avec une dernière petite musique qui s'appelle The Horse Stampede, qui est donc tirée de Abraham Lincoln, chasseur de vampires.